Bienvenue dans Contrechamp, l'émission de cinéma. Et le sujet de l'émission aujourd'hui se sera centré sur une trilogie. Une trilogie pas banale, une trilogie qui a métamorphosé la face du cinéma et du film d'action. Chers amis, cette trilogie, c'est évidemment Matrix. La trilogie Matrix a la particularité d'être, en fait, un seul film en trois, c'est comme L'Hobbit, mais en bien. Et je dois avouer que le film figure dans mon classement des meilleurs films, et dans ma vidéothèque, à côté de tous les films de ceux qui ont fait celui-là. Et comment on ne pourra pas aborder le quart du cinquième, du tiers de ce qu'on va pouvoir parler dans la saga Matrix, on va plus disserter au sujet du personnage de Neo, qui est le centre de l'intrigue, et aussi le personnage le plus complexe avec l'agent Smith de cette série. Et comme synthétiser Matrix, c'est pas si simple, et ben j'ai demandé à un ami de confiance de le faire à ma place. Bonjour Cizès.
Bonjour Tom.
Et c'est Cizès qui fera aussi le cinéphile du jour, parce que autant servir plus qu'il ne le faut.
Bien entendu.
N'oublions pas non plus le grand, le magnifique, le fabuleux Grégory Duque 56, qui est comme à l'accoutumée, qui va nous présenter les sorties de son cinéma associatif de guerre. Bonjour Grégory.
C'est gentil de dire grand, pour le coup.
Ah oui, parce que tu es plutôt petit pour de vrai. Sur ce, partons sur Matrix. Alors, comme dit plus haut, Matrix, c'est trois films, un film en trois en fait. Mais pour commencer cette émission, on va d'abord présenter les trois films. Ce sera plus simple pour tous ceux qui écoutent et qui n'ont pas vu les films de se repérer, bien que, avant tout, allez voir les films parce qu'ils sont tous géniaux. D'abord, on a eu Matrix, The Matrix en anglais. Avec donc l'histoire, c'est celle de Thomas Anderson, un jeune hacker qui se fait connaître sous le nom de Neo. Il vit une vie normale jusqu'au moment où il rencontre Morpheus qui lui révèle qu'il a toujours vécu dans une simulation appelée la Matrice. Il en sort et découvre un monde dévasté, contrôlé par les machines. Hélas, des programmes de sécurité en costard adeptes de la méthode américaine se dressent sur chemin pour arrêter les dissidents.
Et de mon côté, et je vais donc présenter Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Donc dans le deuxième opus de cette saga, Neo, qui est toujours sur sa quête pour libérer la matrice de la domination des machines, se rend à Zion, la dernière cité des humains dans le monde réel, donc dans le monde dévasté. Pendant ce temps-là, l'un des types en costard, Agent Smith, tué dans le premier film, revient et commence à contaminer, tel un virus, les membres de la matrice en les transformant en des clones de lui-même. Et dans Matrix Revolution, l'agent Smith a contaminé toute la matrice et menace de contaminer les machines du monde réel. Et donc c'est à Neo de trouver un moyen de les arrêter. Mais un humain contaminé se retrouve dans le vaisseau dans le monde réel et blesse Neo. Neo se rend donc chez les machines pour se connecter une dernière fois à la matrice et battre Smith définitivement, au prix peut-être de sa propre existence.
Le fait est que Matrix, c'est compliqué à parler de Matrix, parce que c'est complet, trop complet, voire il y a des centaines d'interprétations, donc, comme j'ai dit plus haut, on va parler du personnage de Neo, et donc, je vais essayer, Cizès, parler du parcours de Neo.
Alors, plus précisément, je vais parler de mon interprétation sur la symbolique de Neo, et de son parcours dans la saga. Donc, commençons. Dans la saga Matrix, Neo a un parcours que je vais tenter d'analyser. De manière déjà factuelle, pour commencer, et ensuite plus, disons, métaphysico-philosophique. Donc, au tout début, Neo est seul, et il ne comprend pas le monde qui l'entoure, mais cherche à comprendre, à percevoir un concept dont il a pris conscience, la matrice, mais en vain. Un autre personnage, appelé Trinity, lui offre une première clé pour comprendre ce monde qui l'entoure, et pour que lui-même commence à s'ouvrir aux autres et à la compréhension non seulement du monde qui l'entoure, mais aussi de ceux qui le composent.
«
Ce début de confiance est ébranlé par la prise de conscience des conséquences et des risques que ce choix entraîne, car ce choix le ferait basculer dans l'illégalité. La prise de conscience de la matrice étant un sujet, on va dire, R pour le moins un tabou, étant donné que des agents du gouvernement cherchent à lui mettre des bâtons dans les roues.
Je me perds moi-même dans toutes mes pensées.
Justement, c'est pour ça qu'on a écrit vite.
Je me demande si c'est pas le problème de la matrice, justement.
Ouais, c'est exactement.
T'as le mec,
ça.
il est en train de sortir de la matrice.
C'est pour ça qu'il y a des notes aussi.
Très bien.
Après donc cette altercation avec les agents, il prend son courage à deux mains et cherche à s'ouvrir au monde en rencontrant un homme, Morpheus, qui est présenté comme, disons, le sage de service, celui qui a des réponses et qui donc les donnera à Neo. Grâce à Morpheus, il réussit à passer dans le monde réel, donc ce monde dévasté dont on parlait tout à l'heure. Et après avoir vu objectivement le monde comme ce qu'il est, à savoir un agglomérat de règles, de normes, bref, un fruit pourri, Neo apprend les règles de ces deux mondes pour en créer un plus juste. Cela est valable pour l'ensemble de la trilogie. Neo réussit à briser la norme inhérente à sa condition d'élu. Cela, je le fais en référence à l'ingénieur. Et sa condition de paria de la société d'après l'agence MES. Au moment où ce combat aurait pu le briser, Neo trouve la force en lui d'être quelqu'un de meilleur que ceux qui l'ont précédé, ce qui lui donne la force d'adopter une stratégie pacifiste face à ceux qu'il a toujours combattu et qui lui ont même tout pris au fur et à mesure de la saga. Et il comprend enfin que pour le bien de tous, se sacrifier pour une paix sur le long terme est la solution la plus durable. Neo a atteint un nouveau stade de maturité, lui permettant de perdre toutes ses connaissances sans regret pour réformer totalement les règles et offrir un monde plus juste.
Bah, ça fait référence à la métaphore du héros mille visages de Joseph Campbell. Je sais plus quand il a été fait, mais ça fait un certain temps. Il a été utilisé dans un paquet de films, bons films comme Star Wars ou autre. Et une des dernières phases de ce héros mille savoirs, de ce parcours initiatique, c'est la transmission de son savoir avec le reste du monde. Mais en plus, ça fait référence, c'est une fin où Neo meurt en fait, hein, désolé du spoil.
Oui, totalement. Faut savoir d'ailleurs que, en parlant de Joseph Campbell, si on prend toute sa théorie du monomythe, le parcours de Neo remplit 14 étapes sur les 17 que décrit Joseph Campbell.
Avant de continuer, sur ce que représente Neo, on a vu ce que le parcours de Neo. On va écouter une musique de groupe Lunatic Calm qui s'intitule « Leave You Far Behind ». Présente en instrumental dans la scène du gunfight du premier Matrix, une scène super cool d'ailleurs. We'll be right back. C'était Leave You Far Behind du groupe Lunatic Calm qui est dans le premier Matrix. Et on venait de terminer le parcours de Neo. Et là on va passer à... Mais qu'est-ce que représente Neo? C'est qui Neo pourtant dans les films? Alors, faut savoir que Neo en fait c'est un héros très nouveau pour l'époque. Et surtout pour le cinéma d'action qui est habitué à des bourrins type Rambo, Stallone, tout ça. Là on passe à quelque chose de différent.
En effet, donc c'est un héros qui a des valeurs et des amis, là-dessus on pourra pas me dire que c'est hyper novateur, mais la particularité de Neo, c'est que c'est déjà un solitaire de base, de par sa culture, comme je l'évoquais tout à l'heure, sa culture geek, qui est une sous-culture à l'époque, je vous rappelle elle qu'on est en 99, mais non seulement ça, mais en plus que sa condition d'élu le rend unique, et donc malheureusement encore plus seul. Non pas qu'il n'y ait plus aucun contact humain, loin de là, mais comme tous les êtres au statut hors norme, il y a une certaine forme d'isolement qui s'installe par la crainte et la convoitise de son pouvoir. Les exemples sont légion, mais je peux à raison parler de l'agent Smith qui cherche à s'approprier le pouvoir de l'élu durant le deuxième et le troisième film, et par la crainte, disons Cypher dans le premier. Ce qui fait que sa vie, déjà pas très palpitante d'avant, devient à la limite de l'intenable. Et il ne sera jamais heureux en tant qu'humain car son devoir d'élu et le chemin qu'il prend le condamne, comme nous l'avons vu, à perdre tout ce en quoi il tient, même à la vie.
Une autre différence entre Neo et beaucoup d'héros, en fait, c'est que l'histoire qu'il met en scène progresse uniquement grâce à lui. Dans tous les autres films, généralement, il y a toujours un ou deux petits coups de pouce. Mais là, lui il fait les actes, lui il fait avancer le récit, et les autres c'est comme des PNJ. Dans les jeux de rôle, les PNJ en fait c'est des personnages non joueurs ou non jouables, j'ai jamais su c'était quoi la vérité. Mais le fait est que ces personnages ont une importance moindre. Ils sont là, ils disent, ils t'aiguillent un peu, mais sans plus.
Et il faut pas oublier que Neo est celui qui réussit à changer des normes établies depuis des lustres. La Matrix, on nous dit jamais explicitement ça fait combien de temps qu'elle est en place, mais quelques indicateurs temporels, dont le nombre d'élus, c'est encore autre chose, je ne veux pas tout développer, nous indiquent qu'effectivement il y a quand même une sacrée période pendant laquelle la matrice est restée en place et hégémoniquement...
Moi j'ai une interprétation, donc ça c'est l'interprétation de Isès, mais moi j'ai une interprétation peut-être plus classique.
Vas-y toujours.
Plus classique et qui est partagée par beaucoup de monde, parce que pour moi Neo représente, et a raison peut-être, hein, Le changement qui se heurte à la peur de celui-ci, donc la peur qui est représentée par Smith, et la paranoïa qui est contagieuse, une paranoïa contagieuse que la peur engendre, qui peut être représentée par la contamination des Smiths, avec dans le 2 et le 3, il y a Smith qui peut se cloner, comme l'a dit Isès, et donc ce phénomène-là. Et la contamination, ce fait est que ça fait penser à un phénomène d'actualité, le terrorisme surmédiatisé qui alimente la peur. Et on tombe dans la paranoïa facile en fait.
Je crois comprendre ce que tu veux dire, dans le sens où le fait est que les médias diabolisent à ce point certains aspects de notre quotidien, sans même aller jusqu'aux terroristes. Mais ce genre de paranoïa, je pense par exemple à l'immigration tout simplement. Le fait que beaucoup de médias peuvent se concentrer là-dessus jusqu'à parfois le diaboliser dans l'inconscient collectif des gens, ça devient peut-être un danger. Et je vais simplement en citer, en tout cas évoquer la montée du nazisme dans la première moitié du XXe siècle, qui représente à mon avis ce que tu veux dire.
Sur le personnage de Neo, c'est un personnage qui est vachement intéressant, mais...
Bah, qui est complexe, hein, ouais, comme absolument tous les personnages, c'est pour ça que je me suis concentré seulement sur celui-là, parce que c'est tellement dense au fond qu'il nous faudrait une émission de à peu près 8 heures, et encore je pense qu'on aurait le temps...
Pas forcément pour Neo, mais pour la saga en tout cas.
En tout cas pour le premier film. Mais bon, voilà, donc tout ce que l'on a dit, de toute manière, c'est et libre à vous d'interpréter et de voir si selon vous, on raconte n'importe quoi et que notre interprétation est faussée. Je tiens juste à dire en notre nom que nous ne sommes pas Smith, donc rien ne nous oblige à suivre notre pensée. À la limite, nous sommes Morpheus. Et pour les besoins de la métaphore, je vais parler seul là. Je vous invite donc à juste réfléchir de votre propre gré, de développer vos propres opinions. Donc là, je vous donne un choix. Prenez la pilule bleue et tout s'arrête. Éteignez votre radio, votre lecteur, continuez votre route, pensez ce que vous voulez. Ça ne nous concerne plus. Prenez la pilule rouge, arrêtez-vous donc, regardez, interprétez et réfléchissez Matrix. Et par là, réfléchissez la saga à Matrix pour réfléchir le cinéma.
On est toujours sur Contre-Champ dans l'émission sur... septième émission, je crois qu'on vient de terminer sur Matrix avec
Rock is Dead
de Marilyn Manson, du gros métal. Et ce qu'on n'a pas dit par contre, c'est que le film a déjà 20 ans. 20 ans, il n'a pas franchement vieilli. Surtout effets spéciaux d'ailleurs. Effets spéciaux, parlons-en, parce que ça va être le moment de comment ça marche.
Monsieur, excusez-moi, est-ce que je pourrais savoir comment ça marche ?
Mais évidemment, laissez-moi vous expliquer.
Comment ça marche ?
C'est parti ? Oui, parfait. Je pense que la saga Matrix est l'une des sagas qui a été le pionnier des effets spéciaux numériques, un des pionniers en tout cas avec ou de plusieurs films des années 90, mais Matrix qui a été vraiment une grosse révolution dans le numérique. Et sûrement parce qu'ils ont tenté des trucs. Et par exemple, vous connaissez le bullet time. Voilà.
Mmh, bien sûr.
Et bah, le bullet time, c'est sûrement l'effet qui caractérise le plus la saga des Wachowski, donc la saga Matrix, pas les autres films. Et la technique utilisée, elle est impressionnante tout de même. Bien que je pense que nombre d'auditeurs, s'ils écoutent cette émission évidemment, la connaissent, mais elle reste impressionnante. D'abord, le décor est photographié sous tous les angles pour être reproduit en 3D par la suite. Pour ne pas qu'on voit les autres appareils photo qui ont photographié les décors, ils sont recouverts d'un tissu vert et qui ne laisse entrevoir que l'objectif de celui-ci. On va prendre la scène du toit pour expliquer comme en tant que référence. Dans celle-ci, ce n'est pas moins de 120 appareils photo qui sont posés et qui prennent entre 500 et 1000 images par seconde. Donc c'est un truc assez dingue. Le montage du décor se fait via ordinateur. Et vous voyez, pendant que Keanu Reeves fait son super mouvement avec où il esquive les balles de façon hyper classe, et bah pendant que Keanu Reeves fait son mouvement, les appareils sont posés très rapprochés les uns des autres, en forme de quasiment un cercle.
En colimaçon, je pense que tu veux dire.
Non, pas forcément. C'est en cercle autour de lui, on va dire, ça va être plus simple. Et ceux-ci prennent les photos pendant qu'il fait son mouvement, et ils sont posés plus ou moins haut pour refaire les mouvements de la caméra numérique. Par exemple, vous voyez, la caméra, elle ne fait pas que tourner, elle tourne en hauteur, elle se baisse, les appareils photo sont calibrés en hauteur, en temps réel, c'est-à-dire quand ils ont pris photo, c'était en hauteur, littéralement, c'était des en collimation, comme tu as dit. Ensuite, au montage, on rajoute le décor en 3D et les balles, et on a la scène culte de Matrix. Dans les suites Reloaded et Revolution, c'est vrai qu'on a plus utilisé un motion capture, donc on prend avec les acteurs enfilent un costume vert dégueulasse, ils mettent des capteurs, et puis grâce à des caméras HD, ils arrivent à reproduire sur ordinateur toutes les petites précisions du visage, pour ensuite faire pour les animer, les cascades, les combats et autres. Des trucs qui étaient impossibles à faire, même avec ce que je vais vous dire après, parce que pour ce qui est des cascades et des acteurs, c'est pas compliqué dans le premier, c'est une machine avec des câbles qui leur permet de faire n'importe quoi. Ils tiennent les câbles, ils peuvent faire un saut, retourner arrière, tout ce qu'on veut, et ça, c'est infaisable dans la vraie vie, en tout cas, sauf si on est un mutant, et c'est pas le cas, donc je suis pas un en tout cas. Mais comme je dis, ouais, c'est vrai que Matrix utilise beaucoup la motion capture, mais pas forcément tout le temps en premier, c'est qu'à partir du deuxième et du troisième qu'il utilise. Vous saviez que les lignes de code de la Matrix, en fait, c'est les kanji japonais pris sur une recette de sushi et retourné à 180 degrés. C'est le type qui a fait le film qui l'a dit. Enfin, passons à la chronique du cinéfilme.
La chronique du cinéfilme.
Donc, le cinéphile aujourd'hui, c'est Isaès. Bonjour Isaès, enfin.
Oh, bonjour.
Rebonjour. Aujourd'hui, tu vas parler d'un film que tu adores, que tu m'as conseillé des millions de fois, que j'ai jamais eu envie de voir, mais que je te laisse présenter parce qu'il paraît qu'il est bien.
Et en effet, il est bien. Bon, déjà, je vais poser ça tout de suite. Ce film dont je vais vous parler, c'est plus que probablement mon film préféré. Donc si vous dites que je parais dithyrambique, c'est simplement qu'on m'a dit de me calmer au niveau du script. Cela étant dit, Scott Pilgrim
vs. The World,
en version henricaine, est un film canado-américano-britannico-japonais réalisé par Edgar Wright, à la limite entre action, comédie, fantasy et film musical, et adapté du comics book Scott Pilgrim, scénarisé et illustré par Brian Lee O'Malley. Le rôle titre est tenu par Michael Cera, notamment connu pour des séries comme Arrested Development, avec Mary-Elizabeth Winstead et Anna Kendrick, entre autres. Alors, pourquoi j'aime ce film ? Alors j'aime ce film parce qu'il est extrêmement rafraîchissant. Sincèrement, je me sens rarement aussi bien devant un film que devant celui-là. Pourquoi ? Alors, commençons par le scénario. Le scénario, c'est extrêmement basique. C'est un jeune glandu, je vois pas trop comment dire ça, de 22 ans, qui trouve l'amour. Qui trouve l'amour, voilà, qui trompe sa copine, enfin bref, ce genre de joyeuseté qu'on trouve dans la plupart des séries américaines. voilà. Maintenant, la petite originalité, c'est que la fille qu'il rencontre a 7 ex. 7 ex maléfiques, pour ne rien arranger. 7 ex qu'il devra vaincre un par un pour pouvoir sortir avec la belle. Donc c'est en soi un scénario extrêmement basique, mais c'est pas ce qui fait le sel du film. Ce qui fait le sel, c'est les personnages et l'habillage. Donc je vais passer très rapidement sur les personnages, donc Scott Pilgrim, le personnage principal, qui est un jeune loser, on pourrait dire ça comme ça. De 22 ans, qui a pas de taf, qui joue de manière amateur dans un groupe de musique, et globalement qui vit sa petite vie avec une lycéenne qu'il a rencontrée quelques semaines auparavant. Ensuite, donc la fille qu'il rencontre, donc dont le rôle est tenu par Mary Elizabeth Winstead, Ramona. Ramona qui est extrêmement mystérieuse, enfin bref, c'est le genre de personne inaccessible que l'on voit partout. Et à côté de ça, il y a certains PNJ, comme disait Tom tout à l'heure. Et les autres personnages sont globalement tenus par les ex. Sinon, les autres sont... On va dire que c'est de l'ordre du caméo, hein, parce que j'ai rien à dire sur eux, malgré qu'ils sont traités comme des personnages principaux. Et ce qui il me fait vraiment plaisir dans ce film, c'est l'habillage. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'habillage ? C'est simplement, faut que vous imaginiez un jeu de combat, du genre Street Fighter. Tous ceux qui ont déjà joué voient un petit peu ça, avec des coups ou qui font des petits déplacements d'air visibles. Voilà, ce genre de truc, il y a quelques combats dans le film, et tous ces combats est une immense référence à tous les jeux de combat qui ont pu être faits donc jusque en 2008-2010, à savoir la sortie du film. C'est un immense foutoir. Globalement, j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois ce film, et je trouve encore des détails qui m'amusent encore aujourd'hui. C'est dire si je le trouve extrêmement riche au niveau graphique, au niveau visuel. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que j'aime ce film. Maintenant, pourquoi je le recommande ? Parce que tel que je vous l'ai dit, effectivement, c'est un film extraordinaire, intergénérationnel, qui scénaristiquement voit pas du lourd, mais par contre au niveau habillage et thèmes abordés dépasse beaucoup de productions encore actuelles. Je vais vous donner quelques chiffres. Il est sorti 4 mois après la sortie américaine du film. Il a été diffusé dans 16 salles en France, ce qui est très peu, et avec zéro marketing pour accompagner la sortie, puisque, je cite, les mecs de la distribution ne savaient pas comment vendre le film. Donc autant vous dire qu'il n'a pas fait grand bruit, ce film, mais il est devenu, mine de rien, assez culte pour la justesse avec laquelle il traite le monde du jeu vidéo, la culture geek en général, étant donné que j'en suis issu, cela me touche particulièrement. Donc, c'est chaud, j'ai l'impression de lancer un gros appel au secours, mais tout va bien. En gros, je vous enjoins vraiment à voir ce film, puisque c'est un film vraiment très rafraîchissant, donc allez le voir, ça pourra, ça se trouve en plus, vous faire bien rire, donc allez-y.
Il reste quoi comme chronique ? Dis-nous, Grégory.
C'est la mienne, pour le coup, là, maintenant.
Et bah alors,
celle du cinéma qui est 56, le programme.
Les sorties du moment, c'est parti.
C'est les sorties du moment en compagnie du cinéma Quai 56.
Ah, et nous sommes toujours sur Timbre FM. Et Grégory, dis-nous, quelles sont les sorties du moment dans ton cinéma associatif de guerre ?
Bonjour à tous. Au programme de notre cinéma, pour les 15 prochains jours, les spectateurs pourront venir de tous les horizons. Ils trouveront toujours un film à leur goût. En effet, notre équipe de programmation a préparé un début de mois de mai très éclectique. Les enfants pourront se régaler devant le Parc des Merveilles, joyeuse fresque qui permettra de montrer aux jeunes spectateurs que les rêves peuvent prendre quelquefois forme quand on y croit vraiment. En parlant de rêves, petits et grands pourront faire la rencontre de l'incroyable Monsieur Link. Il s'agit d'une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l'évolution humaine et unique représentant de son espèce, ce cher monsieur se sent seul. Ses amis vont l'aider à retrouver ses origines dans une course folle à travers le monde. Je vous laisse savourer un avant-goût.
Je vous présente Monsieur Link. Monsieur Link, une créature gigantesque, 2,40 m de haut, 300 kg.
Je dirais plutôt autour de 285 kg, pas plus. En fait, ce sont les poils qui me grossissent.
Avec Thierry Lhermitte et Éric Judor.
Il fait chaud ici, non?
Un peu, oui, il suffit d'ouvrir la fenêtre.
Naître.
Ah oui, c'est mieux.
Le 17 avril,
à l'autre bout de la Terre, il y a mes cousins.
La quête de sa famille va devenir une aventure absolument mythique.
Vous avez tué ma grand-mère!
Vite, 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 il faut lui faire du bouche à bouche!
Allez-y, vous êtes l'homme de la situation.
Grande nouvelle pour les amateurs de films de super-héros. Les sauveteurs officiels du monde sont de retour dans Avengers Endgame. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, nous avons laissé le monde dans un sale état. Le redoutable Thanos était parvenu à mettre la main sur l'ensemble des pierres d'infinité. Il a donc pu mettre son plan à exécution, éliminer la moitié de l'ensemble des êtres qui peuplent l'univers. Il est temps maintenant que les héros restants retrouvent des forces et un espoir. Petit indice, il est fort possible que les personnages de Captain Marvel et Ant-Man soient essentiels dans cette seconde partie. Je vous laisse écouter une bande-annonce toute hollywoodienne.
C'est connecté. Salut, Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Pour info, se retrouver à la dérive dans l'espace sans aucune chance d'être secouru, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je n'ai plus de provisions depuis 4 jours. L'oxygène sera épuisé demain matin. Pourtant, quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Parce qu'il n'y a que toi.
Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants.
On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie.
On va réussir, Steve.
J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferai si on échoue.
Une dernière précision pour les fans de Marvel. Ce film va très certainement marquer la fin de la collaboration entre la société de production et les acteurs qui incarnent les rôles de Tony Stark, Thor et Hulk. Profitez-en. Je continue sur la thématique du rêve avec le très poétique « Raoul Taburin a un secret ». Il s'agit d'une adaptation de l'œuvre de Sempé. Raoul Taburin, c'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L'histoire d'un immense malentendu vécu comme une malédiction. Dans ce film, Benoît Poulvord et Édouard Baird donnent la pleine mesure de leur talent poétique. Un film à voir en famille. Dans un style franchement moins familial, mais particulièrement intéressant, nous vous proposons le film Campaneros. Le spectateur sera projeté dans l'Uruguay de 1973, en pleine dictature. Le film raconte les 12 années d'emprisonnement vécues par trois des figures les plus célèbres de l'Uruguay contemporaine, dont son ancien président, José Pepe Mujica. Un film fort qui remet en perspective les événements qui agitent l'Amérique du Sud depuis plusieurs mois. Pour terminer, les amateurs du très bon Les Petits Mouchoirs auront l'occasion de revoir la bande de Guillaume Canet. 3 ans sont passés. Max est parti au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire. Max s'enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Nous nous quittons sur la bande-annonce de Nous finirons ensemble. Bonne séance dans les salles obscures.
Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête?
Tu m'as manqué, mon pote.
Alors?
Alors, on va peut-être pas rester, hein?
Ah ouais, carrément.
Véro arrive dans 2 jours, et moi, évidemment, j'étais censé me barrer.
On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire.
Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde!
C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein?
Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi.
C'est sûr. C'est sur cette chronique de... Arrêtez de rire.
Magnifique, extraordinaire.
C'était parfait, là.
C'est sur cette chronique magnifique, extraordinaire, superbe de Grégory Duquet 56, comme à chaque fois.
Et en fait, tu précises, tu dis ton cinéma. Bon, je ne suis pas propriétaire. Hein. Ça reste une assoce avec 46 personnes, hein, quand même. Hein.
Ah,
ça, faut pas l'oublier.
C'est le seul qui soit venu à cette émission.
Ah ouais, bah 46, il n'y en avait qu'un qui était assez fou pour venir faire de la radio. Hein.
En effet. Mais c'est pour ça qu'on va quitter l'émission tout de suite.
Ah oui, d'accord. Bon, on va au cinéma, tiens, allez.
Allez, hop.